Donc, il est temps maintenant d'aborder justement ce couple. Et vous comprenez bien que si Dieu nous aime, cet amour, il ne le remet pas en cause. Et c'est pour ça que Jésus va rétablir l'amour humain dans son exigence. Et par rapport à la polygamie et à la répudiation, c'est un choc pour les juifs et puis pour tous les peuples. C'est-à-dire que Dieu, lui, nous aime comme un fiancé aime sa fiancée, comme un époux aime son épouse. De toute façon, même si on est charismatique, très émotif et très affectif, de nos jours, on croit pas assez en l'amour de Dieu. Dieu nous aime véritablement, même si la vie peut être très difficile, avec des maladies, avec des épreuves, avec des querelles de famille, des haines. Dieu, lui, nous aime tout le temps. Et il nous pardonne autant de fois qu'il le faut, mais avec une grâce particulière quand même pour demander pardon nous-mêmes, demander ce pardon. On ne peut pas être dans l'insulte et la haine et dire « ben pardonne-moi hein ». Dieu nous demande ce minimum de regret pour nous pardonner. Mais sinon, lui, il est toujours prêt à pardonner et il est véritablement celui qui aime 77 fois 7 fois. Les apôtres demandent à Jésus combien de fois on doit pardonner à son ennemi. 77 fois 7 fois. C'est-à-dire tout le temps, en fait. On peut se défendre, on peut se séparer de corps d'un époux ou d'une épouse qui vous frappe, voyez, et qui vous rend la vie vraiment impossible. Parce que le pardon et l'ouverture d'âme peuvent résoudre des quiproquos, des non-dits aussi. Les préparations au mariage sont le fait que de nos jours, en 2019, il n'y a plus de pression sociale pour vous pousser à rester ensemble, hommes et femmes, pour vous pousser à vivre avec vos enfants et à les éduquer. Ce qui était très important dans le monde agricole, ce qui était très important dans le monde nobiliaire, ce qui était très important dans le monde bourgeois. On devait avoir la sécurité de la filiation. On devait avoir la sécurité des couples, on devait avoir la sécurité des enfants. Et parce que, en plus, la religion chrétienne nous en donnait la structure, on le vivait. Alors quand il y avait des blessures, quand il y avait des graves blessures, on va dire que c'était une hypocrisie. Donc on restait ensemble par hypocrisie. Eh bien, les personnes, si vous voulez, finissaient par avoir un mode de vie, finissaient par savoir où ils allaient, malgré de la froideur dans le couple, malgré le fait qu'il n'y ait plus, la passion des premiers temps. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on vous dira que quand vous partez à la retraite, si vous avez toutefois une retraite, quand on part à la retraite, eh bien, il ne faut pas tout de suite vivre ensemble 24 heures sur 24. Il faut se réhabituer à vivre longtemps ensemble. Vous voyez ? Après des années où on ne s'est pas forcément vu 8 heures par jour. Pourquoi ? Mais pour se réapprivoiser. Mais si on s'aime, oui, mais vous allez devoir vous aimer plus parce que vous allez vous voir souvent. Vous voyez ? Donc si vous pouvez continuer un peu à faire des activités, avoir une vie associative ou autre, sortir, c'est une bonne chose. Mais quelle est la peur actuellement de toutes les préparations au mariage que nous faisons, nous, catholiques? C'est que comme le divorce n'est pas possible à cause de l'amour et du pardon, on est pétrifié de votre divorce. de votre séparation. On dit, mais si, non, par pitié. Et alors, la complexité de la chose est extraordinaire. On est en 2019. Et comme la pression sociale et la pression religieuse est totalement relâchée, vous n'avez même plus, si vous voulez, cette pression, cette aide pour vous rappeler de votre religion, de vous rappeler de l'exigence de l'amour, de vous rappeler l'exigence du pardon. Beaucoup de baptisés ne pratiquent plus, ne vont plus à la messe, donc ils n'entendent plus les sermons qui le rappellent. Ils ne se rapprochent plus de Jésus qui se donne dans la Sainte Hostie. Donc ils ont moins d'aide, moins de grâce pour vivre cette réalité naturelle de l'amour qui fait qu'on vieillit ensemble et qu'on s'entraide jusqu'au dernier souffle. Que l'on est prêt, on est la providence de nos enfants et qu'on ne les fait pas souffrir en se séparant, même en rigolant, si vous voulez, comme la chanson, hein. Oh, c'est merveilleux, on continue à se voir, mais c'est une vieille chanson, hein. C'est qui? C'est Delpech qui avait sorti cette chanson. Vous avez les chansons sur le divorce sont très impressionnantes. C'est les années 70-80. Vous avez Sardou, vous avez Claude François, hein, il appelle son fils, ses mamans, tout ça, le téléphone pleure, enfin, vous avez Delpech, vous avez tout. Alors, vous avez des chansons qui Mon fils, ma bataille, de Balavoine. Tout ça, c'est les années 80. Maintenant, il n'y a plus vraiment de nouvelles chansons sur le divorce, puisque on peut divorcer devant notaire, comme on rompt un contrat de location de voiture, voyez, s'il y a un problème. Donc, et c'est la raison pour laquelle vous devez bien réfléchir dans votre vie future. Ici, là, nous n'avons pas de couple qui ont eu des blessures, c'est-à-dire un divorce civil. Alors qu'ils n'étaient pas engagés pour les baptiser catholiques, le fait de demander la bénédiction du prêtre est indispensable pour l'authenticité de leur consentement. On estime qu'un catholique qui se marie qu'à la mairie n'a pas vraiment l'intention de se marier. Alors quand vous avez quelqu'un qui était baptisé bébé, qui n'a jamais fait de catéchisme, qui n'est jamais allé à l'église, et elle dit, mais moi, quand je me suis marié à la mairie, j'avais l'intention naturelle, je voulais vivre à la vie, à la mort avec celle que j'épousais. Eh bien, on lui donne une seconde chance quand il est catholique. Mais comprenez bien que ce n'est pas de l'hypocrisie. On estime quand même encore un peu qu'il y a de la religion humaine dans la société, et donc que la personne devrait aller au-delà de la cérémonie laïque civile de la mairie, et qu'il devrait faire une prière qui authentifie les quatre piliers du mariage, qui sont la fidélité, l'unité, hein, de ne pas être polygame, l'ouverture à la vie, la fécondité possible, et l'indissolubilité du mariage. Or, actuellement, les gens peuvent avoir une pensée diffuse. Si ça ne va pas, on divorce. Eh bien, pour les catholiques, cette pensée diffuse, elle est présumée. Et on estime que si vous vous mariez que civilement, vous êtes dans un pax plus compliqué. Oui. Mais le mariage civil a quand même ce mot de mariage. Ce qui fait que ce consentement est quand même pas un pax, pas un concubinage. Il y a quelque chose de plus. Mais on demandera au point de vue de la forme d'aller au-delà. Et vous avez des pays d'ailleurs qui reconnaissent plus le fait religieux et les mariages concordataires ou les mariages même dès qu'il y a une forme religieuse, l'État civil la reconnaît. On n'a pas à bégayer le consentement. Oui, 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 Ben, vous l'avez dit, ben oui, mais j'ai dit ce matin à la mairie, pourquoi je le répète à l'église? Ben, parce que l'église dit, ben, vous, en tant que baptisé catholique, ou en tant que non baptisé, vous mariant avec un catholique, on veut une prière. On veut une forme de prière. Parce que on se méfie depuis 1791 pour la France du mariage civil. Vous voyez ? Le mariage religieux était revenu de 1915 à 1878. Je crois. Et donc, c'est... Mais en même temps, voyez-vous, les non-baptisés, comme je vous l'avais déjà dit, quand ils se marient à la mairie, ils se marient vraiment. D'où des difficultés. Vous avez quelqu'un qui arrive, il dit « je veux me marier avec cette fille catholique, on veut faire une préparation mariage dans une paroisse chrétienne, catholique. » Et vous avez déjà été marié ? Ah oui, 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 bon, à l'âge de 22 ans, 24 ans, je me suis marié, ça n'allait pas, j'ai divorcé à 28 ans, j'en ai 30, et puis voilà. Mais j'ai divorcé. Ben, non. La nature humaine dans sa force, le mariage, si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une église catholique pour vous marier. Vous voyez ? Donc, c'est à la mairie que vous vous mariez. Réalité familiale et sociale. Alors ce soir, plus particulièrement, les vertus du couple à l'image de l'amour du Christ, c'est justement la liberté. Vous voyez ? La liberté de l'engagement et sa sincérité, c'est le fait, voyez-vous, parce que c'est plutôt dans la fidélité qu'il y a l'indissolubilité. Et la liberté, c'est que vous ayez une liberté interne et externe. Interne, c'est-à-dire que vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas de névrose excessive. Une névrose, c'est quoi ? C'est une peur. C'est la peur. Voilà, vous avez peur de la foule. Vous êtes névrosé, une petite névrose. Vous êtes agoraphobe. Vous avez peur des chiens. Moi, j'ai une cousine germaine. Il faut voir dans quel état elle se met quand elle voit un chien. Mais le plus petit, hein, elle avait été mordue, je ne sais pas, à 2 ans, 3 ans. Elle a une névrose, une cynophobie, mais hallucinante. Elle pleure, elle tremble, elle se met accroupie par terre. Enfin, c'est... Et le chien en question, ben, je l'ai vu qu'une seule fois dans cet état-là. Et le chien, c'est un petit chien comme ça, quoi. Enfin, voilà. Avant qu'il lui saute à la gorge... Elle aurait eu le temps de lui donner un coup de pied, quoi. Eh bien, voyez-vous, la névrose, on est tous plus ou moins névrosés. C'est-à-dire qu'on a... Ça, c'est la doxa, l'enseignement actuel des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes. Psychiatre, c'est un médecin qui étudie les problèmes psychologiques de l'homme. Le psychologue, c'est celui qui n'est pas médecin et qui ne peut pas vous donner de médicaments et qui étudie les problèmes psychologiques de l'être humain. Le psychanalyste, c'est celui qui étudie les problèmes de l'être humain mais qui vous fait parler, parler, parler et qui, lui, ne dit quasiment rien. Ça, c'est la psychanalyse. Et qui vous fait remonter dans des souvenirs que vous pouvez vous-même construire. Et il ne vous embêtera pas à inventer vos souvenirs et à interpréter votre enfance. C'est pour ça que la psychanalyse a de graves défauts dans sa théorie, à cause de ça. Parce qu'il est étonnant de voir des psychiatres, des psychologues, eux, réagir et avoir le courage de dire à leurs patients « Mais attendez, vous êtes sûr de ce que vous dites ? Vous n'êtes pas en train de reconstruire votre enfance ?» Parce que vous avez des névroses qui sont des peurs anciennes ou des peurs récentes, et vous avez des psychoses. La psychose, ce sont des peurs irrationnelles, sans cause, ou des causes vraiment très éloignées. Et donc, c'est ce qu'on appelle, d'une manière, dans le langage populaire, les fous. Vous ne comprenez pas. La personne, elle a un comportement qui est complètement décalé. Donc, c'est de la paranoïa, c'est de la schizophrénie. Plus particulièrement, vous aviez les bipolaires, c'est entre la névrose et la psychose. Les maniaco-dépressifs, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle maintenant les bipolaires. Vous avez alors les pervers narcissiques, alors là, merveilleux. Tout le monde est pervers narcissique, tout le monde est narcissique. Alors forcément, quand vous avez forgé un truc comme ça et que vous balancez des livres à 20 euros, que vous lisez avant de divorcer, quoi, vous êtes... Mais c'est ce qu'il fait. Mais je suis manipulé. Et hop, vous voyez, combien de couples ont été détruits par les manuels sur les pervers narcissiques manipulateurs. Ce sont vraiment des conneries à l'état pur. Le vrai mot, c'est égoïste. Vous voyez ? Enfin, l'égoïsme n'a jamais été une névrose, une psychose connue. Hein. Ça soigne. Ça soigne comment ? Avec des remarques, avec des amis qui vous disent « Mais tu déconnes, tu te prends pour qui ? Hein, t'es un peu mytho, tu prends beaucoup de place, un peu d'humilité, enfin voilà. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller à Sainte-Anne pour soigner de l'égoïsme. Mais le pervers narcissique, comme Freud dit que tous les enfants sont des pervers. Très bien. Alors le mot est tellement terrible, si vous voulez, parce que l'enfant, à certains moments, il ramène tout à lui, parce que son monde est en absorption. Et puis à un moment donné de son développement psychologique, au contraire, il donne. Alors, monsieur Freud, il est plus pervers narcissique. Vous voyez ? Si vous voulez, à d'autres moments, il est dans la sensation, il découvre tout. Vous lui donnez un bouquin, simple, avec du dur, du mou, du mouillé, du machin, tout ça. Alors, c'est parce qu'il a tété sa maman, qu'il s'est un obsédé sexuel. Oh la vache ! On se calme, hein. On se calme. Et donc, tout cela, voyez-vous, vous aurez le couple qui viendra, qui est un couple conseiller conjugal, donc ils sont toujours un peu dans l'étude de la psychologie contemporaine. Donc ils vont peut-être vous dire des choses que moi, je ne suivrai pas à 100%. Mais il faut bien, à un moment donné, que vous n'ayez pas qu'un intégriste fondamentaliste qui vous raconte le mariage. Il faut que vous ayez aussi des gens un peu plus libéraux. Voilà. Donc, la liberté, c'est que vous ne soyez pas malade psychologiquement au point que ça soit un empêchement, un véritable consentement. Si vous avez suivi dans votre jeunesse, si vous avez eu un traitement psychiatrique, il faut le dire à votre fiancé. Et il le faut. Vous ne pouvez pas cacher une chose aussi nette et claire. Vous pouvez avoir guéri. Moi, je connais quelqu'un qui a fait un vrai surmenage, qui a grillé ses neurones en apparence. Ben, il a surmonté la chose. Il a quand même il a pris des médicaments pour s'en sortir. Des psychotropes. Eh ben ça va. Il s'est marié et ça va. Voilà. Mais la femme est au courant. Vous voyez ? Donc, cette liberté interne, liberté externe, je ne vais pas le dire, sauf si vous êtes tamoul. Alors les tamouls, eux, justement, on organise encore leur mariage. Parce que c'est le monde agricole, c'est le monde de la petite bourgeoisie, donc les mariages, c'est très important. On veut pouvoir se réunir entre cousins, on veut pouvoir savoir qui possédera le champ, comment ça va se diviser lors de la succession. Voilà, c'est la famille. Ouais. Donc il faut encore des mariages arrangés, pour être bien sûr, et puis il y a une pression, hein. Le premier qui divorce, on lui coupe la tête, hein, en Inde. Pourquoi ? Ben parce que c'est, même les hindous comme les chrétiens, c'est une semaine de cérémonie. Et c'est un dieu et une déesse qui s'unissent. Donc, ça en finit pas, tout ça. Dans les villages, c'est des fêtes à tout casser. Les parents prennent leur or et le mettent sur la femme parce que c'est sa dot. Vous voyez? Et ensuite, ben, ça dure une semaine, ils s'endettent et tout. Vous avez les prêtres qui disent, mais arrêtez de dépenser, mais nous sommes folles. Il y en a qui s'endettent sur 10 ans pour un mariage. C'est pour ça que en Inde, ils avortent, hein, les filles. Hein, ça coûte cher une fille, vaut mieux la tuer. Hein. Voilà. Donc ils ont beaucoup de garçons, parce que ça coûte moins cher au mariage. Voilà. Donc, c'est des coutumes humaines qui vont à l'encontre de la liberté. Mais, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, il y a un tamoul qui a dit, ben moi, la femme que mes parents m'ont choisie au pays, ben moi, je ne divorcerai peut-être pas comme vous. Hein? Vous, Français. Nous, on ne divorce pas. Alors, ben, oui, ben, bon. En tant que Français de culture européenne, ici, là et maintenant, pas de mariage arrangé. Oui. Mais ça peut être aussi un chantage. Et ce qui atteint la liberté, et là je vais vous étonner un peu, c'est le concubinage. On s'est mis en couple alors qu'on n'est pas marié. On a donné son corps, on a donné sa personne, mais avec un élastique. C'est-à-dire si ça va pas... On se sépare et personne ne nous fera de reproche, ni nos parents, ni les curés. Mais entre-temps, voyez-vous, vous êtes engagé dans ce qui ressemble à un mariage, mais qui ne l'est pas. Parce que vous pouvez vous quitter à tout moment. Et le pacs, qui est très fiscal, il y en a qui l'ont bien senti. Hein, parce que ils peuvent être pacsés pendant 5 ans et puis tout d'un coup. Il met les affaires sur le palier et c'est fini. Alors il y a certains recours juridiques avec les nouveaux pactes et les nouvelles normes, mais en général, vous n'aurez pas la protection d'un mariage, ça c'est sûr. Et le fait de vivre ensemble, on a du mal à se séparer alors qu'on sent que ça ne va pas, que c'est pas ça ne sera pas son époux, son épouse. Parce que l'engagement du mariage, c'est un engagement, justement, on se fait la cour. Alors on dit, vous venez me dire qu'il y en a qui divorcent pas alors qu'ils n'ont jamais vu leur fiancée, ils la voient une ou deux fois à des repas de famille, avec les deux familles et l'entremetteuse au milieu, et là vous nous dites qu'il faudrait qu'on fasse la cour. Ben oui. Je ne sais pas si vous êtes intéressé aux pièces de Molière, c'était le grand problème dans les années 1600. Le mariage d'amour et le mariage nobiliaire ou bourgeois. Molière, c'est simple. La moitié de ses pièces concerne cette question. La liberté, actuellement pour vous, c'est de vous faire la cour, mais pas forcément de vivre ensemble. C'est de vous connaître, de vous parler. Pendant des heures aux happy hours, jusqu'à vous regarder dans le fond des yeux, mais pas forcément de partager le même appartement. Parce que on a vu des personnes qui sont dans des couloirs à cause du concubinage et qui n'arrivent pas à se dire, mais finalement ça va pas et je reste avec lui ou je reste avec elle. Parce que la vie commune est une vie exigeante. Et comme vous êtes jeune quand même, hein, et que vous avez de la passion en vous, l'engagement et la vraie liberté de l'engagement, c'est qu'il n'y ait le plus de clairvoyance possible dans votre consentement. Mais de nos jours, on a tellement peur du divorce. Qu'on est très psychologiste avec vous. Allez, vous aimez vraiment, vous êtes vraiment libre. Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce que vous aviez des peurs? Est-ce que vous aviez des craintes? Est-ce que vous aviez des doutes? Et à la fin, on devient complètement dingue. Le mariage est plus simple que ça, quand même aussi. La liberté de l'engagement et sa sincérité. En ce qui concerne la fidélité, eh bien, il y a une raison fondamentale qui est l'intégrité du corps, et qui est à l'origine de la virginité au mariage dans de nombreux peuples et nombreuses civilisations. C'est-à-dire qu'on donne son corps à une seule personne. De nos jours, c'est un peu abîmé dans nos pays européens. Mais si on a eu d'autres personnes dans sa vie avant, on doit se convertir, on doit se réformer et se dire que maintenant, je ne donnerai mon corps qu'à elle, qu'à lui, jusqu'à ma mort. Eh bien, cette fidélité qui a l'air un peu artificielle, on va dire, c'est judéo-chrétien. Oui, mais enfin, quand même, on la voit chez les ados. Hein, même s'ils couchent tous les 6 mois avec une autre personne, ou tous les mois, le temps où ils sont ensemble, ils sont jaloux. C'est amusant, hein. Ils sont jaloux. Des jalousies d'adolescence, très, très touchantes, n'est-ce pas ? Très psychologiques, très claires. Mais quand on est adulte, aussi, on est jaloux. Et c'est une véritable perversité de l'esprit de dire « Oh, ben, il peut aller vagabonder, c'est pas grave. Hein. » C'est pas vrai. Vous voyez. Mais oui, mais ah, vous avez une hypocrisie patriarcale. Hein, l'homme, lui, peut vagabonder, mais pas la femme. La femme, c'est plus embêtant lorsqu'il n'y avait pas la contraception. Parce qu'elle va vagabonder, et si elle a un enfant d'un autre, c'est le drame. Et tout le monde se tire dessus. Hein, parce qu'il y a un enfant d'un autre qui vient dans une famille, avec la belle famille, qui est furieuse, hein, c'est ce qu'on appelle l'enfant adultère. Et pendant très longtemps, il n'a eu aucun droit, en droit civil, hein, l'enfant adultère. Il n'existait pas. Et donc, cette fidélité corporelle, c'est aussi une fidélité spirituelle. Quand vous aurez un coup de mou, une petite dépression, une petite fatigue, hein, et que votre mari ou votre femme n'est pas si compréhensif que ça, eh bien vous allez trouver une épaule compatissante, quelqu'un qui est tellement plus gentil, tellement plus à l'écoute, voyez. Et donc la fidélité consiste aussi à continuer le lien et la parole avec celui qu'on a aimé passionnément, et là qu'on va aimer volontairement, amoureusement. C'est-à-dire qu'on va la découvrir et la redécouvrir, et qu'on va l'accompagner. Donc la fidélité n'est pas seulement une fidélité corporelle, mais une fidélité, bien sûr, spirituelle. Alors vous avez Jacques Attali, qui est ma pauvre bête noire, et qui, lui, dit... le mariage, c'est un reste du droit de propriété. Et moi, je suis un vrai socialiste. Jacques Attali, on sent qu'il a le social dans la peau, quoi. Hein, quand il était président de la BC, je sais pas quoi, la Banque des Pays de l'Est, il avait un tel train de vie qu'on l'a viré. Il dit, mais excusez-nous, c'est vraiment pas possible. Et il voulait descendre, enfin, il claquait, hein, il avait des notes de frais délirantes, enfin bon. Mais il donne des leçons à la terre entière, cet homme. Et donc lui, il a suivi le mouvement, et il nous dit, dans les plus grandes conquêtes futures, l'amour pluriel, le trouple. Vous voyez, vous avez le couple et vous avez le trouple. Deux hommes, une femme, ou une femme, deux hommes. Oui. Amour pluriel. Oui. Vous avez aussi les sex friends. C'est. Oui. Et puis vous avez la crise de la quarantaine. Parce que voilà, c'est les derniers moments où on a un peu une vitalité sexuelle. Et donc. Non, mais c'est pas possible. Pitié, c'est pas que je sois puritain. C'est. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc l'unité, si vous voulez. Il faut la puiser dans ce sentiment bizarre que vous avez de jalousie quand l'autre sourit bêtement à un autre. Quoi. Quand vous avez votre épouse qui commence à badiner avec un autre homme, vous faites la gueule. Normalement, vous faites la gueule. Et quand votre époux badine avec une autre femme, normalement, vous faites la gueule. C'est pas possible. Ou alors, vous n'êtes pas humain. Il y a un truc qui s'est passé. Vous avez trop lu Psychologie Magazine. Vous avez trop écouté les éditoriaux d'un tel ou d'un tel. Je sais pas, il y a un problème. Et voyez-vous, nous résisterons. Nous, les intégristes, les religieux, les puritains, tout ça. Non, 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 non. La fidélité et l'unité. Et tout cela pour votre bonheur. Alors vous allez me dire, mais il y a des personnes qui se marient à un âge où ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Eh bien, ils sont vraiment mariés. Il y a cet amour mutuel, ce soutien mutuel, corporel et spirituel. Mais une des origines fondamentales de cette unité, de cette fidélité, comme je vous le disais par rapport à la polygamie, c'est que l'enfant est son père et sa mère, au moins jusqu'à sa maturité. En loi naturelle pure, un homme et une femme doivent s'occuper de leur enfant au moins jusqu'à 12-14 ans. Parce que vous allez nous sortir la maturité d'il y a des siècles. Oui, l'âge nubile, l'âge du mariage, était 12 ans pour les femmes et 14 ans pour les garçons, pour les hommes. Les hommes, vous dites 14 ans pour un homme, 12 ans pour les femmes, c'est pas étonnant avec vos problèmes de pédophilie. Excusez-moi, la pédophilie, c'est 90% dans les familles, avec des beaux-pères, avec des oncles. Depuis que l'éducation nationale est obligée de faire des statistiques, ils ont une trentaine par an qui sont licenciés. Vous n'avez pas de film à millions d'euros sur les recteurs d'académie qui ont déplacé des instituteurs, des professeurs de sport à tire-larigot pendant des décennies et des décennies, et 100 fois plus que de prêtres criminels. Je ferme la parenthèse. Là, l'importance actuellement, c'est de bien comprendre que cette fidélité, c'est une présence à l'enfant. Aussi. Le père et la mère qui vivent ensemble. Au moins jusqu'à leur maturité. Alors de nos jours, que vous saviez, il y a des filles qui sont formées à 10 ans actuellement. Je ne sais pas ce qu'on mange au McDo. Je ne sais pas ce qu'on boit avec l'autre ville, mais il y a un problème. Hein. Vous avez des filles qui ont leurs règles à 10 ans actuellement. C'est tôt. Hein. Mais en soi, c'est vrai qu'à 12 ans, presque toutes les filles ont leurs règles. Et donc, ce sont des femmes. Et c'est comme ça qu'on pensait avant, et c'est comme ça qu'il y a une certaine réalité actuellement. Vous savez, la première fois qu'une fille a ses règles, elle change, elle n'est plus une petite fille. Elle devient une pré-ado ou une ado. Ça, c'est du concret. Et pour les garçons, eux, c'est plus tard. Et c'est encore plus tard de nos jours. Alors, je ne sais pas ce qu'on boit, je ne sais pas ce qu'on mange, mais vous avez la puberté est plus tard maintenant chez les garçons. 14, 15 ans. Les filles, c'est plus tôt. Les garçons, c'est... Mais ça dépend des endroits, justement, et d'habitudes alimentaires, semble-t-il. Mais dans le passé, si vous voulez, quand vous aviez un gaillard de 15 ans, 16 ans, qui avait travaillé dans les champs depuis l'âge de 10 ans, ben, il se mariait. Quand il y avait une fille qui s'occupait à la ferme depuis l'âge de 8 ans et qui avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle pouvait se marier. Oui. Eh bien, de nos jours, la loi vous interdit de marier vos enfants à de tels âges. 16 ans, éventuellement. Hein, mineurs émancipés. Mais en loi naturelle, vous ne devriez pas perdre la main sur leur vie et sur leur éducation avant qu'ils aient l'âge de 16 ans. Interdit de divorcer avant que le dernier ait 16 ans. Après, on peut disons que si la vie était vraiment insupportable, je ne vous admets que la séparation de corps après les 16 ans du dernier. Ou allez, les 18 ans du dernier. C'est pesant le mariage. Oui. Voilà. On vous l'aura dit, hein, c'est assez original, original comme façon de le dire, mais j'assume.